Le journal avec vous, Nicolas Crozet, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous. Vaccinés contre leur gré, alors que le nombre de malades ne cesse de croître à l'hôpital, certains récalcitrants acceptent finalement d'aller se faire vacciner à contre-cœur. Reportage en Ile-de-France dans un instant. Aux États-Unis aussi, le débat fait rage. New York instaure le vaccin obligatoire pour aller au spectacle ou au resto. Le président Joe Biden lance un nouvel appel aux Américains sceptiques. Dans ce journal, nous irons aussi en Afghanistan. Kaboul, frappé hier soir par une double attaque terroriste. Et puis, ont-ils trouvé chaussures à leurs pieds? Enquête sur les pointes magiques, ces chaussures avec du carbone qui font tomber les records d'athlétisme les uns après les autres aux Jeux de Tokyo.
Dans un petit quart d'heure, notre invité, le prix Goncourt Alexis Génie, il co-signe une enquête ensemble pour mieux se nourrir. 10 millions de Français concernés par la précarité alimentaire et un parti pris, les pauvres ont le droit de bien manger. Tour de France, des initiatives solidaires ou comment contourner les colis et les invendus de la grande distribution. Alexis Génie au micro Inter à 7h45.
France Inter.
Ça fait 2 semaines aujourd'hui que le pass sanitaire est obligatoire en France pour entrer dans tous les lieux de culte.
De culture. Un pass qui ne passe pas. Une partie de la population qui se fait entendre d'ailleurs avec parfois des excès pour ses opposants, ses sceptiques. À Caen, des employés du mémorial de la Seconde Guerre mondiale ont été traités de collabos parce qu'ils contrôlaient les QR codes aux entrées. Collabo pour des personnels d'un musée qui raconte les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. C'est dur à vivre pour le directeur du mémorial, Stéphane Grimaldi.
Il y a une vraie colère depuis quelques années dans ce pays. Aujourd'hui, elle s'exprime dans la rue, elle s'exprime partout. Donc, c'est pas étonnant que des gens aient envie de nous traiter de collabos. C'est scandaleux, mais... Et puis après tout, on a dit qu'on était en guerre, donc quand on est en guerre, il faut des collabos aussi. Donc si vous voulez, à force de mal nommer les choses, on en arrive à ça. C'est sorti plusieurs fois. Quand on sait ce que c'est que la collaboration, ce qui est notre cas, est parfaitement insupportable.
Stéphane Grimaldi, le directeur du mémorial de Caen, joint par Marcelin Robine de France Bleu Normandie. En attendant, les médecins le constatent, les malades qui affluent dans les hôpitaux sont la plupart du temps des personnes non vaccinées. Le plan blanc déclenché en Corse et en PACA, un plan qui permet notamment de rappeler des soignants en congé et de libérer des lits en déprogrammant des opérations non urgentes en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe. Là, les hôpitaux sont déjà saturés et c'est donc l'heure du reconfinement. Dans ce contexte, les centres de vaccination commencent à voir arriver de nouveaux profils en métropole, en tout cas des réticents, voire des récalcitrants qui se décident finalement à aller se faire piquer à contre-cœur. Exemple à Saint-Quentin-en-Yvelines, reportage Marion Ferrer.
Je viens contrainte et forcée, donc je suis de mauvaise humeur.
Moi, je suis ravie de vous rencontrer.
Dans les allées du vaccinodrome, Yvette ronchonne, s'appuie sur sa canne. Cette grand-mère n'est pas venue de bon cœur.
Parce que mes petites filles sont traumatisées. Elles pensent que je vais mourir si je ne suis bien pas ici. Je vais leur faire la surprise. Ils arrivent le 13.
L'octogénaire finit par s'avancer vers le chapiteau où la guide Nathalie, avec beaucoup de patience et de sourire.
Je ne me presse pas, je peux parler avec chacun. On ne va pas être ensemble longtemps, mais voilà, il faut avoir cet accueil. Et même si c'est une injection, il faut prendre son temps et rassurer chacun.
La même scène se joue quelques box plus loin. Toimi, un ambulancier de 54 ans, pas convaincu.
Par dépit, ouais. Comme je travaille dans la santé, et puis qu'on va être obligé de toutes les manières, donc voilà.
Dialogue de sourds entre lui et Catherine, l'infirmière qui procède à l'injection.
Vous avez eu quelques vaccinations obligatoires, non, en tant que...
Oui.
Posez votre bras, vous.
On a l'hépatite B,
Et ambulancier, vous fréquentez des gens qui sont fragiles, hein.
Oui.
Et certains patients, comme le raconte Audrey, tentent d'esquiver la piqûre jusqu'au dernier moment.
Moi, j'ai déjà eu le souci de nous demander de ne pas les vacciner et de faire leurs papiers. Et après ça, c'est toujours bien terminé, donc ça va. Mais il y a des gens qui tentent, ouais.
Et en fin de compte, ils ont leur vaccin ou alors...
Et en fin de compte, ils ont leur vaccin.
Malgré ces réticences, 3000 vaccinations sont effectuées chaque jour à 50 ans en Yvelines.
Comment ça s'est passé ?
Très bien.
Et ben voyez.
Et l'obligation de se faire vacciner pour les soignants, évoquée dans le reportage à l'instant de Marion Ferrer, ce sera à partir du 15 septembre, sauf censure du Conseil constitutionnel. Le syndicat Sud, qui est opposé à cette obligation, appelle à la grève dans les hôpitaux de France à partir de ce matin.
Et aux États-Unis, le vaccin va devenir obligatoire à New York pour entrer dans les restaurants et les salles de spectacle.
Oui, c'est la première ville américaine à mettre en place ce passeport vaccinal pour tous. La vaccination déjà exigée dans certains États pour les fonctionnaires, dans certaines entreprises pour les salariés. Joe Biden, le président américain, appelle une nouvelle fois les réticents à franchir le pas. New York, Chloé Glory.
Une pandémie des non-vaccinés, l'expression n'est pas une première. Dans la bouche de Joe Biden, le président s'exprimait alors que 70% des adultes ont reçu au moins une première dose, mais avec de fortes disparités selon les régions. Ça se propage comme un feu de forêt parmi les non-vaccinés. Les données sont formelles, c'est un crève-cœur, d'autant plus que c'est évitable. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que plus de gens soient vaccinés. Problème, dit Joe Biden, certains États compliquent ses efforts. Au Texas, les autorités ont dit aux universités qu'elles pourraient payer des amendes si leurs professeurs demandent aux étudiants non vaccinés de porter un masque. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Des États plus réticents face aux vaccins et dans lesquels le variant Delta se propage, l'Alabama, territoire le moins vacciné, a ainsi vu ses hospitalisations multipliées par 3 en 2 semaines. S'il vous plaît, faites-vous vacciner, mais pas parce que je le dis. Écoutez les patients non vaccinés dans les hôpitaux qui meurent du Covid et demandent à leur médecin, doc, est-ce que je peux avoir le vaccin ? Des histoires très médiatisées qui ont peut-être marqué les esprits, les États qui connaissent actuellement le pire rebond épidémique, en effet, ont vu récemment leur campagne vaccinale repartir. New York, Loïc Loury, France Inter.
Au moins 4 morts et une vingtaine de blessés hier dans un double attentat kamikaze à Kaboul, en Afghanistan. De fortes explosions ont secoué la capitale afghane à 2 heures d'intervalle. Dans la foulée, des affrontements entre talibans et forces de l'ordre à Kaboul. Pour France Inter, Sonia Ghezali.
Les détonations s'enchaînent au cœur de Kaboul après une première explosion à 19h50 heure locale. Des flammes surgissent et un épais nuage de fumée noire s'élève au-dessus d'un bâtiment de 7 étages situé dans le quartier huppé de Shirpur. Juste derrière se trouve la maison du ministre de la Défense et celle d'un parlementaire. C'est là qu'un kamikaze s'est fait exploser à bord d'une voiture piégée. Des tirs nourris et des détonations retentissent tout au long de l'intervention des forces de sécurité afghanes. À 21h, des cris surgissent dans la nuit. « Allah Akbar, Dieu est grand », crient des silhouettes qui se détachent aux fenêtres et sur les toits des maisons. Ils crient leur soutien aux forces de sécurité afghanes qui luttent contre les talibans, qui ont lancé en mai dernier une vaste offensive à travers le pays. Un internaute avait lancé ce défi sur les réseaux sociaux dans la journée. Les habitants de Kaboul l'ont honoré, malgré les explosions et les fusillades qui ne cesseront que vers 23h30 heure locale. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Le Liban commémore la terrible explosion sur le port de Beyrouth. C'était il y a tout juste un an, le 4 août 2020. Plus de 200 morts, 6500 blessés. Une reconstruction qui commence doucement. Pas de cérémonie officielle organisée par le pouvoir politique discrédité, mais une célébration interreligieuse sur le port et plusieurs appels à manifester dans les rues. On en reparle à 8h20 avec les invités d'Hélène Roussel dans le grand entretien sur France Inter. Les dernières nouvelles de Tokyo. La frustration, les larmes de Kevin Mayer en lice dans le décathlon, mais diminuées par de grosses douleurs au dos. Le recordman du monde est quatrième après les 3 premières épreuves. La suite en fin de matinée. Dans la nuit, un nouveau record est tombé sur le 400 mètres. Et après Warholm chez les hommes hier, c'est l'américaine Sydney McLaughlin qui a remporté l'or en 51 secondes et 46 centièmes. Des records qui interrogent et plongent nos regards dans les chaussures des athlètes. Warholm, par exemple, portait hier ses pointes magiques, chaussures avec du carbone. Alors la technologie et les matériaux, est-ce vraiment cela qui peut faire la différence, Marie-Ameline ?
C'est aujourd'hui une évidence, les pointes carbone affolent les chronos. Ces chaussures créées par Nike et portées pour la première fois aux Jeux de Rio en 2016 renferment dans leur semelle une plaque en fibre de carbone à la fois légère et rigide qui associée à de la mousse agit comme un ressort, explique l'ancien champion de saut de haie et consultant pour Radio France, Stéphane Caristan.
Ces nouvelles chaussures ont un effet propulsif à chaque fois qu'on pose le pied. Et c'est surtout aussi une pointe qui permet d'économiser son énergie et donc de diminuer la fatigue. Ce qui fait qu'on voit des athlètes sur les fins de parcours avoir une capacité de finish plus impressionnante qu'avant.
Mais est-ce là du dopage technologique ou une évolution logique de la recherche et du matériel ? Les avis divergent. Là, en revanche, où ils s'accordent, c'est sur l'iniquité sportive évidente. De là à interdire ces chaussures, impossible vu la manne financière pour les équipementiers. La Fédération internationale d'athlétisme doit donc travailler avec eux, estime l'entraîneur de sprint, Guillaume Tanon.
Ça va être extrêmement important, à la fois pour garantir la pérennité de notre sport, la crédibilité, et puis aussi avoir une certaine garantie du spectacle, ne pas tomber dans un spectacle démesuré avec peut-être des foulées qui vont faire 3 mètres.
Pour l'instant, les seules règles en vigueur sur piste sont l'interdiction des prototypes de chaussures en compétition et une épaisseur limitée de la semelle avec une seule plaque de carbone autorisée.
Avec ou sans carbone dans les chaussures, on suivra tout à l'heure côté français Amandine Brossier en demi-finale du 400 mètres dames, c'est à 12h30. Quentin Bigot en finale du lancer de marteau à 13h15. Gabriel Tual sur le 800 mètres à 14h. Et dans les sports co, les quarts de finale dames en basket et hand, France-Espagne, France-Pays-Bas en début d'après-midi.
L'Arc de Triomphe va bientôt changer d'allure.
L'un des monuments les plus célèbres de Paris avec la Tour Eiffel est en train d'être empaqueté. C'est l'œuvre de Christo qui avait déjà fait ça avec le Pont Neuf et le Reichstag. À sa mort l'an dernier, son neveu a pris la suite. Cyril Ardo est allé voir le chantier.
Sur le chantier pour le moment, pas l'ombre des 25 000 mètres carrés de toile fabriquée dans un matériau industriel, le polypropylène argent bleuté recyclable, pas l'ombre non plus des 3 000 mètres de cordage. L'heure est encore à la protection de l'Arc de Triomphe. Vladimir Yavachev, le neveu de Christo, est le chef d'orchestre de ce projet.
Le tissu arrivera une semaine avant l'ouverture du projet au public. Il y a beaucoup de préparatifs avant.
Cette œuvre colossale voit enfin le jour après 4 ans de préparation et 2 reports. Le premier pour un nid de Faucon Cresserelle, le second en raison de la pandémie. Mais dans cet empaquetage, il ne faut y voir aucun message politique. Christo s'en est toujours défendu, affirmant qu'il travaillait simplement pour la beauté. Voilà ce qu'il disait à France Inter en avril 2019.
La toile, elle va refléter les forces du vent. C'est une toile qui a beaucoup de plis, qui est sensuelle et tactile.
L'empaquetage de l'Arc de Triomphe, ultime œuvre de Christo. Il en a rêvé, y a réfléchi pendant près de 60 ans. Il a même vu une maquette grandeur nature. Alors aujourd'hui, son équipe n'a aucun mal à appliquer tout ce qu'il voulait.
Tous les détails ont été décidés de son vivant. S'il me manque tant, c'est parce que j'aurais aimé qu'il voit tout ça. Il aurait été excité comme un enfant.
Le projet coûte 14 millions d'euros et n'a bénéficié d'aucun financement public. Il est intégralement financé par la vente des œuvres de Christo.
Les travaux vont durer jusqu'au 18 septembre. L'Arc de Triomphe restera empaqueté jusqu'au 3 octobre. L'avancée du chantier en vidéo, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Et c'était le journal de Nicolas Crozel. La chronique éco à suivre.